Chapitre 24. Deux ou trois jours après, quand je me fus bien installé dans ma chambre, que j'eus fait plusieurs courses dans Londres et commandé à mes fournisseurs tout ce dont j'avais besoin, Monsieur Pocket et moi, nous eûmes une longue conversation ensemble. Il en savait plus sur ma carrière future que je n'en savais moi-même, car il m'apprit que Monsieur Jaggers lui avait dit que, n'étant destiné à aucune profession, j'aurais une éducation suffisante si je pouvais m'entretenir avec la pension moyenne que reçoivent les jeunes gens dont les familles se trouvent dans une bonne situation de fortune. J'acquiesçais, cela va sans dire, ne sachant rien qui allât à l'encontre. Il m'indiqua certains endroits de Londres où je trouverais les rudiments des choses que j'avais besoin de savoir, et moi je l'investis des fonctions de directeur et de répétiteur pour toutes mes études. Il espérait qu'avec une direction intelligente, je ne rencontrerais que peu de difficultés et serais bientôt en état de me dispenser de toute autre aide que la sienne. Par le ton avec lequel il me dit cela, et par beaucoup d'autres choses semblables, il sut admirablement gagner ma confiance, et je puis dire dès à présent qu'il remplit toujours ses engagements envers moi avec tant de zèle et d'honorabilité qu'il me rendit zélé à remplir honorablement les miens envers lui. S'il m'avait montré l'indifférence d'un maître, je lui aurais en retour montré celle d'un écolier. Il ne me donna aucun prétexte semblable, et nous agissons tous deux avec une égale justice. Je ne le considérai jamais comme un homme ayant quelque chose de grotesque en lui, ou quoi que ce soit qui ne fût sérieux, honnête et bon dans ses rapports de professeur avec moi. Une fois ces points réglés, et quand j'eus commencé à travailler avec ardeur, il me vint dans l'idée que, si je pouvais garder ma chambre dans l'hôtel Barnard, mon existence serait agréablement variée, et que mes manières ne pourraient que gagner dans la société d'Herbert. Monsieur Pocket ne fit aucune objection à cet arrangement, mais il pensa qu'avant de rien décider à ce sujet, il devait être soumis à mon tuteur. Je compris que sa délicatesse venait de la considération que ce plan épargnerait quelques dépenses à Herbert. En conséquence, je me rendis dans la petite Bretagne et je fis part à Monsieur Jaggers de mon désir. « Si je pouvais acheter les meubles que je loue maintenant, dis-je, et deux ou trois autres petites choses, je serais tout à fait comme chez moi dans cet appartement. »«
Faites donc, » dit Monsieur Jaggers avec un petit sourire. « Je vous ai dit que vous iriez bien. Allons, combien vous faut-il ? »
Je dis que je ne savais pas combien.
« Allons, » reprit Monsieur Jaggers. « Combien ? 50 livres ?
Oh, pas à beaucoup près autant.
5 livres ? Dit Monsieur Jaggers.
C'était une si grande chute que je dis tout désappointé.
Oh, plus que cela ? Plus que cela, hein ? Dit Monsieur Jaggers en se posant pour attendre ma réponse, les mains dans ses poches,
la tête de côté et les yeux fixés sur le mur qui était derrière moi.
Combien de plus ?
Il est si difficile de fixer une somme, dis-je en hésitant.
« Allons, » dit Monsieur Jaggers. « Arrivons-y. 2 x 5, est-ce assez ? 3 x 5, est-ce assez ? 4 x 5, est-ce assez ?»
Je dis que je pensais que ce serait magnifique.
« 4 x 5 feront magnifiquement votre affaire, vraiment, » dit Monsieur Jaggers en fronçant les sourcils. « Et que faites-vous de 4 x 5 ?»«
Ce que j'en fais. »«
Ah, » dit Monsieur Jaggers. « Combien ?»
« Je suppose que vous en faites 20 livres, » dis-je en souriant.
« Ne vous inquiétez pas pour ce que j'en fais, mon ami, » observa Monsieur Jaggers,
en secouant et en agitant sa tête d'une manière contradictoire.
« Je veux savoir ce que vous en ferez, vous. »
« 20 livres, naturellement. »«
Warwick, » dit Monsieur Jaggers en ouvrant la porte de son cabinet. « Prenez le reçu de Monsieur Pip et comptez-lui 20 livres. »
Cette manière bien accusée de traiter les affaires me fut une impression très profonde, et qui n'était pas des plus agréables. Monsieur Jaggers ne riait jamais, mais il portait de grandes bottes luisantes et craquantes, et en appuyant ses mains sur ses bottes, avec sa grosse tête penchée en avant et ses sourcils rapprochés pour attendre ma réponse, il faisait craquer ses bottes, comme si elles eussent ri, d'un rire sec et méfiant. Comme il sortit en ce moment, et que Wemmick était assez causeur, je dis à Wemmick que j'avais peine à comprendre les manières de Monsieur Jaggers.
« Dites-lui cela et il le prendra comme un compliment, » répondit Wemmick. « Il ne tient pas à ce que vous le compreniez. Oh » ajouta-t-il. « Quand je paraissais surpris, ceci n'est pas personnel, c'est professionnel, professionnel seulement. »
Wemmick était à son pupitre. Il déjeunait et grignotait un biscuit sec et dur, dont il jetait de temps en temps de petits morceaux dans sa bouche ouverte, comme s'il les mettait à la poste.
« Il me fait toujours l'effet, dit Wemmick, de s'amuser à tendre un piège à un homme, et de le veiller de près. Tout d'un coup, clac, vous êtes pris !»
Sans remarquer que les pièges à hommes n'étaient pas au nombre des aménités de cette vie, je dis que je le supposais très adroit.
« Profond, dit Wemmick, comme l'Australie,
en indiquant avec sa plume le parquet du cabinet pour faire comprendre que l'Australie était l'endroit du globe le plus symétriquement opposé à l'Angleterre.
S'il y avait quelque chose de plus profond que cette contrée, ajouta Wemmick en portant sa plume sur le papier, ce serait lui.
Je lui dis ensuite que je supposais que le cabinet de M. Jaggers était une bonne étude, à quoi Wemmick répondit
« Excellente ».
Je lui demandai encore s'il était beaucoup de clercs. Il me dit
« Nous ne courons pas beaucoup après les clercs parce qu'il n'y a qu'un Jaggers et que le client n'aime pas à l'avoir de seconde main. Nous ne sommes que quatre. Voulez-vous voir les autres? Je puis dire que vous êtes des nôtres. »
J'acceptai l'offre. Lorsque Monsieur Wemmick eut mis tout son biscuit à la poste et m'eut compté mon argent, qu'il prit dans la cassette du coffre-fort, la clé duquel coffre-fort il gardait quelque part dans son dos, et qu'il l'eut tiré de son collet d'habit comme une queue de cochon en fer, nous montâmes à l'étage supérieur. La maison était sombre et poussiéreuse, et les épaules graisseuses, dont on voyait les marques dans le cabinet de Monsieur Jaggers, semblaient s'être frottées depuis des années contre les parois de l'escalier. Un commis, qui semblait être quelque chose d'intermédiaire entre le cabaretier et un tueur de rats, gros homme pâle et bouffi, était très occupé avec trois ou quatre personnages de piètre apparence qu'il traitait avec aussi peu de cérémonie qu'on paraissait traiter généralement toutes les personnes qui contribuaient à remplir les coffres de M. Jaggers.
« En train de trouver des preuves pour Old Bailey, » dit M. Wemmick en sortant.
Dans la chambre au-dessus de celle-ci, un mollasse petit basset de commis, aux cheveux tombants, dont la tante semblait avoir été oubliée depuis sa plus tendre enfance, était également occupé avec un homme à la vue faible que M. Wemmick me présenta comme un fondeur qui avait son creuset toujours brûlant et qui me fonderait tout ce que je voudrais. Il était dans un tel état de transpiration qu'on eût dit qu'il essayait son art sur lui-même. Dans une chambre du fond, un homme haut d'épaule, à la figure souffreteuse, enveloppé d'une flanelle sale, vêtu de vieux habits noirs qui avaient l'air d'avoir été cirés, se tenait penché sur son travail, qui consistait à faire de belles copies et à remettre au net les notes des deux autres employés pour servir à M. Jaggers. C'était là tout l'établissement quand nous regagnâmes l'étage inférieur. Wemmick me conduisit dans le cabinet de M. Jaggers et me dit
« Vous êtes déjà venu ici ?»«
Dites-moi, je vous prie, lui demandai-je, en apercevant encore les deux bustes au regard étrange. Quels sont ces portraits ?»«
Ceci ?»
dit Wemmick en montrant sur une chaise et soufflant la poussière qui couvrait les deux horribles têtes avant de les descendre.
« Ce sont deux célébrités, deux fameux clients, qui nous ont valu un monde de crédit. Ce gaillard-là, mais tu as dû, vieux coquin, descendre de ton armoire pendant la nuit et mettre ton œil sur l'encrier pour avoir ce pâté-là sur ton sourcil, a assassiné son maître.
« Celui-là ressemble-t-il » demandai-je en reculant devant cette brute, pendant que Wemmick crachait sur son sourcil et l'essuyait avec sa manche.
« Si celui-là le ressemble, mais c'est lui-même, le moule a été fait à Newgate, aussitôt qu'il a été décroché. « Tu avais de l'amitié pour moi, n'est-ce pas, mon vieux gredin ?» dit Wemmick en interpellant le buste.
Il m'expliqua ensuite cette singulière apostrophe en touchant sa broche et en disant
« Il l'a fait faire exprès pour moi. »«
Est-ce que cet autre animal a eu la même faim ?» dis-je. « Il a le même air. » »«
Vous avez deviné, » dit M. Wemmick. « C'est l'air de tous ces gens-là. On dirait qu'on leur a saisi la narine avec du crin et un petit hameçon. Oui, il a la même faim. » C'est, je vous assure, une fin toute naturelle ici. Il avait falsifié des testaments, et c'est cette lame, si ce n'est pas lui, qui a envoyé dormir les testateurs supposés. Tu étais un avide gaillard, malgré tout, dit M. Wemmick en commençant à apostropher le second buste. Et tu te vantais de pouvoir écrire le grec. Tu étais un fier menteur. Quel menteur tu faisais! Je n'en ai jamais vu de pareil à toi.
Avant de remettre son défunt ami sur sa tablette, Wemmick toucha la plus grosse des bagues de deuil et dit
« Il l'a envoyé acheter la veille, tout exprès pour moi. »
Tandis qu'il mettait en place l'autre buste et qu'il descendait de la chaise, il me vint à l'idée que tous les bijoux qu'il portait provenaient de sources analogues. Comme il n'avait montré aucune discrétion sur ce sujet, je pris la liberté de lui demander, quand il se trouva devant moi, occupé à épousseter ses mains.
« Oh oui, » dit-il. « Ce sont tous des cadeaux de même genre, l'un amène l'autre. Vous voyez, voilà comment cela se joue, et je ne les refuse jamais. Ce sont des curiosités, elles ont toujours quelque valeur, peut-être n'en ont-elles pas beaucoup, mais après tout, on les a et on les porte. » Cela ne signifie pas grand-chose pour vous, avec vos bris en dehors, mais pour moi, l'étoile qui me guide me dit « Accepte tout ce qui peut se porter. »
Quand j'eus rendu hommage à cette théorie, il continua d'un ton affable.
« Si un de ces jours vous n'avez rien de mieux à faire, et qu'il vous fût agréable de venir me voir à Walworth, je pourrais vous offrir un lit et je considérerais cela comme un grand honneur pour moi. Je n'ai que peu de choses à vous montrer, seulement deux ou trois curiosités, que vous serez peut-être bien aise de voir. Je raffole de mon petit bout de jardin et de ma maison de campagne. »
Je lui dis que je serais enchantée d'accepter son hospitalité.
« Merci, » dit-il alors. « Nous considérerons donc la chose comme tout à fait entendue. Venez lorsque cela vous fera plaisir. Avez-vous déjà dîné avec M. Jaggers ?»«
Pas encore. »«
Eh bien, » dit Wemmick, « il vous donnera du vin et du bon vin. Moi, je vous donnerai du punch, et du punch qui ne sera pas mauvais. Maintenant, je veux vous dire quelque chose. Quand vous irez dîner chez M. Jaggers, faites attention à sa gouvernante. »
« Verrai-je quelque chose de bien extraordinaire ?»«
Vous verrez, » dit Monsieur Wemmick, « une bête féroce apprivoisée. Vous allez me dire que ça n'est pas si extraordinaire. Je vous répondrai que cela dépend de la férocité naturelle de la bête et de son degré de soumission. Je ne vais pas amoindrir votre opinion de la puissance de Monsieur Jaggers, mais faites-y bien attention. »
Je lui dis que je le ferai avec tout l'intérêt et toute la curiosité que cette communication éveillait en moi. Et, au moment où j'allais partir, il me demanda si je ne pouvais pas disposer de 5 minutes pour voir M. Jaggers à l'œuvre. Pour plusieurs raisons, et surtout parce que je ne savais pas bien clairement à quelles œuvres nous allons voir M. Jaggers, je répondis affirmativement. Nous plongeâmes dans la cité et nous entrâmes dans un tribunal de police encombré de monde, où un individu assez semblable au défunt qui avait du goût pour les broches se tenait debout à la barre et mâchait quelque chose, tandis que mon tuteur faisait subir à une femme un interrogatoire ou contre-interrogatoire, je ne sais plus lequel. Il la frappait de terreur, et en frappait également le tribunal et toutes les personnes présentes. Si quelqu'un, à quelque classe qu'il appartint, disait un mot qu'il n'approuverait pas, il demandait aussitôt son expulsion. Si quelqu'un ne voulait pas admettre son affirmation, il disait « Je saurais bien vous y forcer !» Et si, au contraire, quelqu'un l'admettait, il disait « Maintenant je vous tiens !» Les juges tremblaient au seul mouvement de son doigt. Les voleurs, les policemen étaient suspendus, avec un ravissement mêlé de crainte, à ses paroles, et tremblaient quand un des poils de ses sourcils se retournait de leur côté. Pour qui était-il? Que faisait-il? Je ne pouvais le deviner, car il me paraissait tenir la salle tout entière, comme sous la meule d'un moulin. Je sais seulement que quand je sortis sur la pointe des pieds, il n'était pas du côté des juges, car, par ses récriminations, il faisait trembler convulsivement sous la table les jambes du vieux gentleman qui présidait et qui représentait sur ce siège la loi et la justice britanniques.